de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on le fasse.
Radio Public Santé, votre chronique sexologie. Virginie Lison-Loisel.
Le vaginisme est une contraction réflexe, involontaire, donc incontrôlable, des muscles situés autour du vagin. Bien que les organes génitaux soient normaux, puisqu'ils réagissent parfaitement à l'excitation, l'orifice vaginal se referme par réflexe, interdisant ainsi toute pénétration. Le vaginisme rend également impossible l'examen gynécologique, de même que l'utilisation de tampons pendant les règles. Cette pathologie est encore taboue, alors même que 5 à 10% des femmes seraient concernées. Cela n'empêche pas aux femmes d'avoir des relations sexuelles, parfois même très satisfaisantes, mais beaucoup ont besoin de solutionner ce problème lorsqu'elles souhaitent avoir un enfant. Dans 90% des cas, la cause du vaginisme est d'ordre psychologique et est apparue après un traumatisme physique ou psychologique. C'est pour cette raison que toutes les tranches d'âge sont concernées par le problème et que l'apparition comme la disparition des symptômes peut intervenir à tout moment. Alors, pour traiter cette pathologie, il faut en quelque sorte apprivoiser le vagin. D'abord avec un travail de détente, de relaxation à base de respiration, puis de prise de conscience. Un thérapeute peut en effet vous aider en montrant des images de vagin et en expliquant les différentes fonctions des organes génitaux féminins. La thérapie se poursuit à domicile grâce à quelques exercices à faire seul ou avec son partenaire. La finalité est que la femme se réapproprie sa sexualité. Elle pourra ainsi reprendre progressivement une vie sexuelle de qualité.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Et nous parlons cette fois-ci de la nutrition. Ça sera juste après ceci. À tout de suite.
Un euro. Pour vaincre l'autisme, vous n'allez pas donner qu'un euro. Bah non, c'est ridicule. Ça sert à rien, un euro. Comme si on allait financer la recherche contre l'autisme avec un euro. Mais c'est le grand don pour l'autisme. Avec votre euro, plus celui de votre voisin, plus celui d'un autre, on va la financer, la recherche pour l'autisme.
Ce sont les petits gestes qui font le grand don. Faites un geste sur vaincrelautisme.org.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
In the night, I build
Souvent des personnes dire qu'elles sont allergiques au lait. Ce terme est très flou, car le lait contient de nombreux nutriments, mais ceux-ci sont rarement liés à de véritables allergies alimentaires. Par exemple, on peut avoir du mal à digérer le lactose, car on ne produit pas assez ou plus assez de lactase, l'enzyme nécessaire à la digestion du lactose. Mais il ne s'agit pas d'une allergie. Une allergie alimentaire se caractérise par une réaction anormale et violente du système immunitaire, le système de défense du corps humain, face à une protéine contenue dans un aliment. Les allergies alimentaires sont rares, mais quasiment tous les aliments peuvent être concernés, surtout donc ceux qui contiennent des protéines. Il existe ainsi une allergie aux protéines contenues dans le lait. Elle se manifeste dès la petite enfance. Généralement, elle fait son apparition avant l'âge de 3 mois. Elle doit bien sûr être diagnostiquée et prise en charge par un spécialiste. Heureusement, elle ne concerne que 1 à 3% des enfants en France et en plus, elle se guérit. Pour cela, les produits laitiers, c'est-à-dire le lait, les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses et la grande famille des fromages doivent être totalement supprimés jusqu'à la guérison. Et ensuite, ils sont réintroduits progressivement. La plupart des enfants sont guéris avant d'atteindre l'âge de 8 ans. Cette allergie n'est donc pas définitive et elle est très exceptionnelle après cet âge. D'une manière générale, on peut rappeler que les aliments les plus souvent responsables d'allergies chez l'adulte sont les rosacées, comme la pêche, la pomme ou la prune, et les fruits de la famille du latex, c'est-à-dire l'avocat, la banane, la châtaigne, la figue, le fruit de la passion, le kiwi, la mangue ou encore le melon. Viennent ensuite les ombellifères, tels que le céleri, le fenouil et la carotte, mais également les fruits à coque, par exemple l'amande, la noisette, la noix et la pistache. Si vous pensez souffrir de manifestations allergiques liées à votre alimentation, consultez donc un allergologue pour tester ces aliments.
Vous écoutez Radio Public Santé.
La radio qui vous veut du bien.
Radio Public Santé, c'est sur le www.publicsante.com.
Yeah. Avec son fauteuil roulant, Karine bute tous les jours sur le même obstacle. Un trottoir trop haut, une porte trop étroite ou un escalier. Tout comme Antoine avec sa poussette. Ou encore Tom avec ses béquilles. Et aussi Sonia, Marc, Nora, Henri, Juliette, Yanis, Léa, Julien.
Aider Karine aujourd'hui, c'est aussi aider Antoine, Tom, Sonia et nous tous. Le combat des personnes en situation de handicap pour une ville accessible à tous, c'est aussi le vôtre. Pour le gagner, soutenez l'APF, l'Association des paralysés de France, sur www.apf.asso.fr. Votre don, c'est notre force.
Radio Publique Santé, 50% actualité santé, 50% musique. Radio Publique Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Avant et pendant les règles, beaucoup de femmes ressentent de l'inconfort ou des douleurs au niveau du bas-ventre et parfois même de l'estomac. Pour éviter ces douleurs, parfois violentes et récurrentes, certaines jeunes femmes ont recours à la pilule. D'autres utilisent des médicaments antispasmodiques ou anti-inflammatoires. Il existe toutefois des solutions alternatives issues de la phytothérapie. Certaines plantes présentent en effet des propriétés apaisantes qui soulagent les douleurs liées aux règles, comme la mélisse, qui calme les contractions des muscles du bas-ventre, ou l'achillée millefeuille, qui a aussi des vertus anti-inflammatoires. La mélisse s'utilise en tisane, avec 2 à 4 cuillères de feuilles infusées 5 minutes dans l'eau chaude à prendre le matin. L'achillée s'utilise quant à elle sous forme de teinture mère, 50 gouttes à diluer dans un verre d'eau, à consommer jusqu'à 6 fois par jour, ou en tisane, faite avec la partie fleurie de la plante. Il existe également des plantes à poser directement sur la zone douloureuse en massant. On peut compter ici sur les huiles essentielles de camomille romaine ou de lavande vraie, à mélanger avec un peu de lait hydratant pour ne pas risquer l'irritation. Ces alternatives peuvent offrir une solution viable, mais ce ne sont pas des remèdes miracles. Alors surtout, en cas de douleurs anormales ou de douleurs qui surviendraient alors que vous n'aviez peu ou pas de douleurs lors de vos règles auparavant, il est conseillé de consulter votre médecin ou votre gynécologue, car il pourrait s'agir d'une grossesse extra-utérine, d'une infection ou d'une endométriose.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé. C'est sur le www.publicsanté.com.
Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone to
hold tight.
Come on, come on. Let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me. I wanna know.
Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me. I wanna know. You got, yeah, you got a higher. You got, yeah, you got a higher. You got, oh.
up shaking just to let you know now.
En forme, un groupe de médecins et experts montre que la capacité physique des collégiens a chuté, entraînant une hausse de l'obésité et du diabète. L'étude dirigée par le cardiologue François Carré a été menée auprès de plus de 9000 collégiens en classe de 6e et a mesuré leur capacité physique à travers un test de course sur 20 mètres. Les résultats montrent que les collégiens courent moins vite qu'une population de leur âge il y a plus de 30 ans, mais que ceux qui ont suivi un entraînement spécifique ont amélioré leur performance. Le professeur Carré a déclaré que nous sommes confrontés à un tsunami sociétal d'inactivité physique et de sédentarité, mais que l'école peut jouer un rôle en aidant à remplacer le temps passé assis par du temps d'activité physique. Depuis la rentrée scolaire, les écoles primaires proposent 30 minutes de sport par jour, en plus des 3 heures hebdomadaires, et les ministres de l'Éducation nationale et des sports ont annoncé le lancement d'une équipe de France des 30 minutes qui accompagnera ce dispositif en visitant les écoles.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Dans un instant, retrouvez votre chronique « Traitement ». Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
Ha ha ha.
again.
Sont un incontournable des colonies de vacances ou de la rentrée scolaire chez les enfants, ces parasites d'à peine 3 mm qui colonisent les cheveux et provoquent une envie irrépressible de se gratter, ce sont les poux.
Les poux sont de minuscules insectes qui s'installent tranquillement sur le cuir chevelu, ils pondent des œufs, les lentes, qui collent aux cheveux et il est souvent très difficile de s'en débarrasser. Car si avoir des poux ce n'est pas grave en soi, ces petites bêtes qui ne sautent pas et ne volent pas rampent pourtant très vite et peuvent se balader de tête en tête très rapidement, raison pour laquelle les enfants sont principalement touchés.
Mais la présence des poux sur la tête de nos enfants n'est pas synonyme d'une mauvaise hygiène puisque ces insectes n'ont aucune préférence pour les cheveux qu'ils soient propres ou sales.
Pas de panique, toutefois, les traitements sont aujourd'hui très efficaces. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour les obtenir, mais veillez à bien respecter les indications inscrites sur l'emballage.
Oui, et pour faire simple, sachez que ces produits existent sous 3 grandes catégories. Les insecticides pour éliminer, les asphyxiants pour étouffer les poux et les lentes sans irriter et les alternatives naturelles sous la forme d'huiles essentielles. Mais attention, pour ces 3 catégories, les résultats et usages sont variables. Ainsi, avec les insecticides, les poux peuvent développer une résistance aux produits et leur usage est déconseillé chez les plus jeunes enfants. Un point également valable pour les huiles essentielles qui, si elles sont achetées et concentrées, doivent être diluées avant usage en complément d'un risque d'inflammabilité et d'allergie. Les produits asphyxiants tirent donc leur épingle du jeu car, en plus d'être utilisables sur les plus jeunes, leur action mécanique n'est ni toxique ni irritante et certaines marques vous proposent désormais même des versions non grasses et sans peignage.
En prévention et pour éviter toute contamination ou récidive, vous pouvez laver votre linge à 60 degrés, cela sera très efficace. Mais ne partez pas dans une quête effrénée du ménage, les poux ne vivent pas longtemps loin du cuir chevelu et les œufs n'écloront sûrement pas à température ambiante.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction www.publicsante.com.
Show me how to love.
Le tatouage ou la puce électronique sont en quelque sorte la carte d'identité de votre animal de compagnie. Tout chat ou chien ayant un propriétaire doit se faire identifier. Un réflexe tout simple qui vous permettra de ne jamais perdre la trace de votre compagnon à poil. Longtemps, le tatouage a été la seule façon fiable d'identifier un animal, pour qu'il puisse être remis à ses propriétaires en cas de perte. Mais aujourd'hui, un autre moyen, beaucoup plus fiable, est mis à votre disposition pour faire identifier votre animal. Il s'agit bien sûr de la puce électronique. Les puces peuvent en effet être lues par les vétérinaires, les refuges, les fourrières ou bien encore la police, dès lors qu'ils sont équipés d'un lecteur. La puce électronique se présente sous la forme d'une petite capsule de verre de quelques millimètres contenant un récepteur électronique. Elle s'insère sous la peau, sur le côté gauche du cou de l'animal. Ce tout petit cylindre est absolument indolore pour votre animal puisqu'il ne contient pas de système magnétique ou électrique pouvant le faire souffrir. La douleur est minime, elle est comparable à une injection sous-cutanée avec une grosse aiguille. Les avantages de la puce sont nombreux. Elle est à la fois ineffaçable et infalsifiable, esthétique car invisible, et surtout, elle ne nécessite aucune anesthésie, sauf pour les animaux agités. Un inconvénient réside tout de même. Un lecteur est nécessaire à la lecture de cette puce. Le numéro d'identification comporte 15 chiffres, un code qui le suivra à vie et permettra de l'identifier si celui-ci se perd. Depuis juillet 2004, pour être parfaitement en règle, les chats, chiens et autres furets doivent également disposer d'un passeport européen si vous voulez voyager avec votre animal de compagnie. Il s'agit d'un document similaire au nôtre et comportant les informations de votre animal. Identification, vaccin, nom et adresse du propriétaire, identique à tous les pays de l'Union européenne. Votre animal, une fois en règle, plus rien ne pourra vous séparer de lui.
C'est la radio qui vous veut du bien avec, dans un bref instant, le retour de vos chroniques santé et nous parlerons cette fois-ci de sexologie. Assez de devoir attendre pour écouter un point complet sur l'information ? Écoutez Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes. Autour de l'actualité nationale et internationale, nos 45 journalistes experts vous parlent 24h sur 24 de l'actualité sportive, high-tech, technologie, immobilier, juridique. Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes, c'est sur votre smartphone ou tablette avec l'appli Replay News et sur replaynews.net. Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé, la radio qui vous veut du bien.
Beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coaster. érection, c'est lorsque le pénis grandit et devient rigide, souvent au moment d'un acte sexuel. Sous l'effet d'une stimulation, les muscles de la base du pénis se relaxent et laissent alors le sang entrer dans ce que l'on appelle les corps caverneux qui parcourent toute la longueur du pénis. Le pénis se redresse et devient alors dur. L'érection masculine, à la fois image de la virilité, mais aussi du désir sexuel, peut parfois être compliquée, voire impossible. De nombreuses causes peuvent expliquer ce que l'on appelle la panne, comme le cholestérol, certains médicaments ou encore l'alcool. Des facteurs psychologiques tels que l'anxiété, la peur de l'échec ou la fatigue peuvent diminuer la qualité de l'érection. On considère qu'un homme est atteint de troubles sexuels au bout de 3 mois de symptômes. Aujourd'hui, selon une étude IFOP Lilly, 93% des hommes considèrent l'érection fondamentale pour se sentir homme et nécessaire pour faire l'amour. A l'inverse, pour les femmes, l'érection est plus un enjeu personnel, comme un moyen de mesurer le désir de leur partenaire. Lorsqu'une difficulté sexuelle arrive, 76% des hommes s'inquiètent, mais auraient plus tendance à taire le problème. Or, il est important d'en discuter avec sa compagne ou bien un spécialiste. Cela permet d'éviter une incompréhension mutuelle dans le couple et envisager des solutions efficaces et adaptées pour retrouver une sexualité épanouie. Le docteur Catherine Solano, andrologue et sexologue à l'hôpital Cochin à Paris, nous explique les solutions qui existent pour les troubles de l'érection.
Alors pour remédier aux problèmes d'érection, maintenant on a les médicaments qui sont formidables, y compris dans les problèmes psychologiques, parce que c'est vraiment des starters de l'érection, ça donne des érections naturelles, ça donne une érection quand il y a une stimulation érotique ou une ambiance érotique, et c'est vraiment notre première prescription. Ça marche quand même que dans 70% des cas, donc on a après des injections intracaverneuses qui sont quand même un petit peu plus agressives, mais qui marchent très très bien chez 90% des hommes, et quand ça fonctionne pas vraiment, il y a encore d'autres systèmes mécaniques, d'anneaux péniens, de vacuum ou d'implants péniens qui là, et de la chirurgie, bon c'est pour les cas vraiment où tous les autres moyens n'ont pas fonctionné, mais on a énormément de moyens à notre disposition. Et puis je vais pas oublier quand même la psychothérapie, c'est-à-dire qu'il y a des cas où les troubles de l'érection sont vraiment dus à des problématiques psychologiques et là où une thérapie peut beaucoup les aider, mais c'est pas du tout contradictoire avec des traitements. Les deux s'entraident.
Il existe des solutions accessibles et efficaces pour retrouver une sexualité sereine. Après 40 ans, près d'un homme sur 3 est atteint de troubles de l'érection. Alors, avant que cela ne devienne une vraie souffrance et que cela provoque des problèmes dans le couple, osez en parler. On saura vous écouter et vous orienter si besoin vers un spécialiste.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction www.publicsante.com.
Un malhonnête stratagème ces trois mots-là n'affirment pas. Il y a une question, non, je t'aime, qui demande, m'aimes-tu, toi? Alors sache que
latérale de sécurité, appelée PLS, est un geste de premier secours à pratiquer lorsque l'on est en présence d'une personne inconsciente qui respire et qui est sur le dos. C'est une technique qui permet de faciliter le passage de l'air dans les poumons afin que la victime puisse respirer sans trop d'efforts. En effet, dans ce genre de situation, le risque principal est que la personne s'étouffe. Il s'agit donc d'agir avec précaution. Pour ce faire, on place la victime sur le côté en chien de fusil, en faisant bien attention de maintenir la tête que l'on place vers le bas. De cette façon, la victime ne risque pas de s'étouffer en cas de vomissement, par exemple. Les bras et les jambes forment des béquilles de façon à stabiliser la position. Si cela vous est possible, tentez de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale grâce à un coussin, par exemple. Pensez également à libérer les voies aériennes, en dégrafant cravate, col, ceinture et premier bouton du pantalon. Vérifiez aussi qu'aucun corps étranger ne se trouve dans sa bouche et retirez les lunettes si la victime en a. Tous ces gestes effectués, sécurisez le lieu et attendez les secours. Pendant ce laps de temps, observez régulièrement que la victime continue de respirer en vous plaçant face à elle pour voir son visage et en plaçant votre main sur son abdomen pour percevoir les mouvements respiratoires.
Vous écoutez Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de Ripley News. Morgan Ribot.
Bonsoir à tous. Après Sciences Po, la mobilisation étudiante en France a gagné ce lundi la prestigieuse université parisienne de la Sorbonne, fermée pour l'après-midi. Israël assassin, Sorbonne complice, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à la Sorbonne mi-journée pour une mobilisation en faveur de la cause palestinienne devant le bâtiment et à l'intérieur de la prestigieuse université parisienne. Les forces de l'ordre ont été appelées pour évacuer les lieux. Un enjeu de souveraineté nationale, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé hier avoir envoyé au géant informatique français Atos une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités souveraines du groupe en difficulté. Une telle opération permettrait d'éviter que des activités cruciales pour la France passent dans les mains d'acteurs étrangers. Les gardes à vue de l'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre de Matisse à Châteauroux et de sa mère ont été levés ce lundi. Ils doivent être présentés devant un juge d'instruction en vue d'une probable mise en examen. Une mise en examen devra donc être prononcée. Le juge d'instruction devra décider entre les qualificatifs de meurtre et d'assassinat en fonction du degré présumé de préméditation. Un juge des libertés et de la détention sera ensuite saisi pour décider d'un éventuel placement en détention. Le Premier ministre Gabriel Attal est prêt à débattre avec la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, aux élections européennes. Dimanche, le président du Rassemblement national a réitéré sa volonté d'affronter le chef du gouvernement. Jordan Bardella fait la course en tête dans les enquêtes d'opinion, loin devant la candidate macroniste Valérie Hayé. Dans un sondage Ipsos publié le 13 avril dernier, il fait deux fois mieux que l'eurodéputé. Les secouristes ont évacué les passagers d'un TER qui a déraillé hier peu avant 19h. Le train transportant environ 200 personnes s'était retrouvé bloqué au sud de Lyon, à Grigny-le-Sablon. Pas de blessés graves, mais une femme enceinte a été choquée et un homme légèrement blessé au genou. Après le déraillement de ce TER, la SNCF a annoncé aujourd'hui que la ligne reliant Firminy à Lyon sera interrompue au moins jusqu'au 1er mai.
Radio Public Santé, 50% actualité santé. Et 50% musique. Radio Public Santé.
La radio qui vous veut du bien.